Terre à Terre, le magazine de l'environnement, ce matin, le blues de l'expert François Veyrette. François Veyrette, on poursuit avec vous ce matin notre série intitulée Le blues de l'expert. Une série qui, à chaque fois, a l'air de réjouir les invités pressentis. Réjouir non pas parce que vous aimez avoir le blues, mais parce que, de fait, vous vous reconnaissez dans ce titre. Alors, contrairement à nos premiers invités, vous n'êtes pas un scientifique, vous n'êtes pas un spécialiste pointu de tel ou tel domaine. Vous auriez pu être un toxicologue, un chimiste, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, vous êtes fondateur d'une association, Génération Future, qui s'appelait au départ Mouvement de défense et de respect des générations futures. Comment est-ce qu'on devient expert? Comment et pourquoi est-ce qu'on fonde une association comme celle-là? Parce que de fait, vous êtes devenu un expert, on peut le dire.
À un certain niveau d'expertise, quand on travaille pendant 15 ans sur un dossier, fatalement, quelle que soit la faiblesse de ses capacités, il en reste toujours quelque chose. Donc effectivement, il reste un peu d'expertise. Dans la nécessité, plus sérieusement pour un responsable associatif comme moi, c'était il y a 20 ans, sur un dossier qui est celui des pesticides, de faire émerger la connaissance scientifique. C'est-à-dire, il y a 20 ans, c'était même pas les balbutiements d'Internet d'ailleurs. C'est venu légèrement après. Et on était une période où on savait qu'il y avait vraiment des dangers liés à l'utilisation des pesticides. On savait qu'il y avait d'autres systèmes agricoles possibles. Mais finalement, on avait peu de crédibilité dans les différentes arènes ou les lieux de décision parce qu'on n'avait pas accès à la connaissance. Donc on a, chez Génération Future maintenant, on a simplifié notre nom, travaillé sur deux axes. Un axe que Georges Toutain, qui est le cofondateur de l'association, qui est agronome, développe toujours à 80 ans, qui est l'axe de l'agronomie et le développement de systèmes alternatifs à l'agriculture chimique, et puis un axe de travail sur la connaissance scientifique sur la dangerosité des pesticides. Alors aujourd'hui, en 2014, on a maintenant une expertise collective de l'INSERM, publiée l'année dernière, qui nous liste tous les dangers des pesticides, qui fait référence à 30 ans de revues bibliographiques scientifiques. Donc c'est plus facile maintenant pour objectiver et faire valoir le danger de ces produits-là que peu de personnes contestent peut-être, hormis la frange la plus dure du syndicat agricole dominant et les fabricants de pesticides eux-mêmes. Mais il y a 20 ans, effectivement, il y avait besoin de faire émerger un certain nombre de données scientifiques. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait dans un premier petit bouquin en 2002, chez Terre Vivante, avec mon ami Claude Aubert, et puis dans d'autres bouquins après, avec Fabrice Nicolino. Bon, maintenant, il y a, bien sûr, 20 ans après, beaucoup plus de connaissances. Et là, on a besoin de faire avancer l'expertise dans un autre domaine, c'est la connaissance fine des processus de décision, des lois, des règlements européens, pour essayer de les améliorer, quand on peut, dans les différents rendez-vous législatifs, au niveau national ou européen. Et puis aussi, parfois, pour les faire appliquer, tout simplement. Et donc là, c'est un autre type d'expertise, c'est, sans être non plus juriste de formation, avoir un minimum de connaissances dans ces domaines-là, pour aller regarder ce qui se passe, et dans les arènes où on veut bien nous inviter, où parfois on s'invite, pouvoir amener une critique, une lecture critique de ce qui se fait, pour demander plus, également faire savoir les critiques qu'on a à apporter en dehors de ces arènes, c'est-à-dire en travaillant avec la presse, en travaillant avec notre site internet, etc., pour informer les gens.
On va y venir, François Veyrette, bien sûr, à cette nouvelle étape de votre travail. Mais tout de même, j'aimerais peut-être dans un premier temps que vous nous parliez de cette co-construction à laquelle vous avez pris part, de construction des connaissances. Vous y avez pris part activement, non seulement en recherchant toutes les études qui pouvaient être faites, mais également même en commanditant des études sur des sujets qui vous paraissaient importants. Donc, dans un premier temps, c'était véritablement un travail d'apprentissage scientifique qui a été le vôtre. Alors, sur quoi et sur qui avez-vous pu vous appuyer dans un pays dont on sait qu'il est extraordinairement pauvre sur les questions de toxicologie chimique? Et surtout, quand on regarde le résultat de vos actions, on est quand même assez impressionné. Donc, vous allez nous dresser un petit tableau de tout ce que vous avez entrepris, avec la modestie qui vous caractérise, mais tout de même.
Oui, faut pas sous-évaluer, mais faut pas non plus se surévaluer. Non, il y a eu de réels progrès dans la diffusion des connaissances, ça c'est clair. On y a contribué avec d'autres, mais je pense que effectivement, quand on a régulièrement publié des résumés d'études scientifiques, année après année, par notre liste de diffusion sur nos sites internet, à l'occasion de différentes affaires, quand on a par exemple fait analyser des résidus de pesticides dans différents fruits et légumes, dans des raisins, plus récemment dans des cheveux, et ben on réalise des travaux qui ne sont pas proprement parler des études scientifiques, puisqu'elles ne sont pas conduites par des équipes universitaires, parce qu'elles ne donnent pas lieu à des publications dans des revues universitaires relues et validées par les pairs. Mais
sont des et travaux, comment sont-elles conduites alors?
Elles sont conduites, ce sont des analyses qui sont faites par une association, soit un groupe de citoyens qui, en prenant l'avis de scientifiques compétents, sont conduites le mieux possible. Voilà, si vous prélevez des cheveux, il faut le faire d'une certaine manière, il faut prélever tel segment du cheveu, il faut travailler avec une équipe universitaire de référence. Donc, par exemple, les derniers travaux qu'on a fait sur les analyses de cheveux, on les a conduits avec l'équipe du docteur Appenzeller de l'Université du Luxembourg, qui a plusieurs publications internationales sur ce thème-là. Donc on s'assure qu'on travaille avec des gens compétents, reconnus, mais on n'est pas dans le format études universitaires publiées. Alors, d'ailleurs, on va avec ce même scientifique faire des travaux qui vont poursuivre cette recherche-là. On avait travaillé sur des cheveux d'enfants. Et les prochains travaux donneront lieu à des publications scientifiques parce qu'ils souhaitent exploiter ces données pour les présenter sous la forme de publications scientifiques. Vous voyez que la frontière est mince entre la publication d'un travail, d'un rapport d'ONG et la publication d'une étude scientifique. Ben, c'est une mise en forme qui est différente. C'est des précautions peut-être supplémentaires au niveau méthodologique parce qu'il faut répondre aux canons de la science, ce qui est normal. Mais de toute façon, le fait de publier un travail qui n'est pas une étude scientifique publiée, ça ne veut pas dire que c'est un travail qui est totalement sans intérêt ou sans légitimité, puisque les labos sont les mêmes, etc., etc. Mais ce sont des formes, ce sont des exercices différents.
On pourrait en tout cas rappeler un certain nombre de résultats. Là, vous avez fait allusion au rapport expert, à l'enquête expert que vous avez menée. Il y a eu trois volets experts pour exposition aux perturbateurs endocriniens,
voilà,
c'est
exposition,
ça?
Alors expert, c'est avec deux P, donc exposition aux pesticides perturbateurs endocriniens, parce qu'on travaille sur les pesticides presque exclusivement, et à l'intérieur des pesticides, on a une partie de ces substances-là qui sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui vont, même à très faible dose, perturber le fonctionnement du système endocrinien, du système hormonal. On a analysé, je viens de le dire, donc des cheveux d'enfants pour montrer qu'ils étaient exposés à des dizaines de ces pesticides perturbateurs endocriniens, et on a analysé aussi des aliments, des céréales, des fruits et des légumes, pour montrer que au cours d'une même journée, on ingérait par des repas tout à fait ordinaires, là aussi des dizaines de pesticides perturbateurs endocriniens. Donc l'intérêt, c'était de montrer tout justement toute la pertinence qu'il y a à avoir une législation européenne forte pour protéger les populations de l'exposition aux perturbateurs endocriniens. C'est une alerte. On veut simplement illustrer l'état réel de l'exposition de la population. Et après, ces alertes seront confirmées par des études qui seront conduites par soit l'INVS, soit l'ANSES, des études sur de beaucoup plus grands échantillons, avec des moyens qui ne sont bien sûr pas des moyens du niveau de ceux des associations. On n'est pas là sur quelques milliers d'euros, mais on parle en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. Donc c'est une autre dimension. Mais l'intérêt justement de l'action des associations comme la nôtre, comme Génération Future, c'est de faire ce type de travaux un peu en avance des institutions pour pouvoir lancer l'alerte et montrer l'intérêt qu'il y a à élargir la connaissance. On joue un peu le rôle de ferment là, pour susciter, légitimer finalement des enquêtes qui sont beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus disons lourdes et plus significatives au plan statistique, qui seront conduites par des organismes officiels.
Et qui devraient confirmer, corroborer les résultats que vous avez trouvés dans un premier temps. Autre étude plus récente, c'était l'étude APACHE, qui s'intéressait là toujours à l'exposition des populations, mais en établissant des degrés d'exposition. Il s'agissait, je le rappelle, de s'intéresser à l'exposition des ouvriers agricoles de la viticulture, des ouvriers viticoles, aux pesticides, en comparant à la fois aux riverains qui vivaient près des vignes et d'autres personnes qui vivaient loin des vignes et qui ne travaillaient pas dans les vignes. On a atteint des chiffres tout à fait impressionnants, puisque entre quelqu'un qui vit loin d'une vigne et quelqu'un qui travaille dans une vigne, il y a 11 fois la quantité de pesticides chez un ouvrier viticole.
Oui, c'est ce qu'on a voulu montrer, hein, c'est analyse des pesticides agricoles dans les cheveux. On a voulu aller voir ce qui se passait dans les organismes des travailleurs agricoles des vignes qui n'utilisent pas les pesticides. Hein. On sait bien, nous on a une campagne assez vaste depuis plusieurs années sur les victimes des pesticides, qui prend en compte d'ailleurs les premières victimes, ce que sont les utilisateurs eux-mêmes ou les agriculteurs au sens large, qui travaillent dans des milieux où sont présents les pesticides, mais également des personnes qui sont exposées aux pesticides en tant que riverains. Donc on a voulu aller voir ce qui se passait dans les vignes, à la fois en analysant les cheveux des personnes qui taillent les vignes sans utiliser les produits, mais ils sont dans les vignes traitées ou ça traite à côté des parcelles où ils sont. Et puis également des riverains de vignes, qu'on a aussi des non-professionnels de la viticulture, mais qui habitent, ils sont le nez sur les vignes toute la journée en ouvrant leurs fenêtres. Et on a pris un petit groupe de contrôle avec quelques Parisiens qui dépassent rarement les limites du périphérique. Et effectivement, il y a des différences sur un échantillon de taille effectivement faible qui sont très importantes. Ça demande d'être confirmé par des études plus larges, mais nous, le but de ce travail, c'était de montrer, d'illustrer le fait que l'exposition des travailleurs de la vigne était très importante, et on sait qu'il y a beaucoup de viticulteurs qui sont atteints par des maladies type maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, certains cancers. Donc certaines de ces maladies sont reconnues comme maladies professionnelles. Nous, on veut aider ces professionnels à faire reconnaître leur maladie, mais surtout, on veut aider à faire évoluer les pratiques agronomiques pour qu'on utilise de moins en moins de pesticides et des pesticides de moins en moins dangereux pour les quelques-uns que certains continueraient à utiliser pour protéger la santé de ces travailleurs. On a vraiment, nous, une approche large de l'environnement. L'environnement, c'est l'environnement naturel, l'environnement intérieur, l'environnement au travail. L'alimentation, c'est aussi un environnement qui conditionne notre environnement intérieur. On doit aborder tout ça de front. Nous, on essaie d'aborder ça par des enquêtes thématiques. Donc, on l'a fait là sur des populations en zone viticole. On l'a fait sur des populations d'enfants. On va le faire sur des populations bientôt de femmes enceintes ou de femmes en âge de procréer, pour pouvoir montrer justement la réalité de l'exposition du fœtus à des produits qui sont des perturbateurs endocriniens. C'est une manière d'objectiver le danger couru par les populations et d'alerter les responsables pour qu'à leur tour, eux, d'une part, créent et mettent en œuvre ces études plus larges et plus solides au niveau statistique, mais également pour qu'ils prennent des mesures. Il ne suffit pas de faire des études et encore des études et encore des études. On espère que nos alertes vont conduire les législateurs ou les différents organismes à prendre les mesures qui s'imposent. Et on a la chance en Europe d'avoir déjà un certain nombre de législations, notamment sur les pesticides, qui disent qu'on devrait en utiliser moins ou utiliser moins de pesticides perturbateurs endocriniens. Donc on jette aussi l'alerte pour ça.
Mais alors justement, François Vaillerette, on vous écoute, vous nous parlez d'une situation qui a l'air tout de même assez alarmante, et vous continuez à parler, avec espoir, je dois le dire, et non pas tellement avec le blues, avec espoir, de législation à venir, tout en disant qu'il en existe déjà, mais on continue à espérer que les autorités vont réagir, que les autorités vont. Il ne s'est rien passé, là, depuis la création de Génération Future au tout début du XXIe siècle.
Il s'est passé un certain nombre de choses. Alors, non seulement sur la prise en compte de la réalité des dangers des pesticides, ça c'est le premier progrès. Quand on regarde en arrière, on se dit oui, effectivement, il y a eu de réels progrès. Il y a déjà certains produits les plus dangereux qui ont été interdits. Alors bien sûr, on a tendance à oublier ces progrès-là. Il ne faut pas s'en satisfaire, bien sûr. Mais il y a les molécules qui étaient encore autorisées il y a 10 ou 15 ans qui ont été interdites. Il y en a...
Lesquelles, par exemple ?
Au moment du Grenelle de l'environnement, il y a eu des molécules, une cinquantaine, qui ont été supprimées des listes. On a tous en souvenir des produits comme le lindane, qui était encore autorisé il y a quelques années, qui n'est plus autorisé. Le DDT, ça fait bien plus longtemps, ça fait 30 ou 40 ans maintenant. Mais on aurait tort de se satisfaire uniquement de ça, puisqu'il subsiste encore beaucoup de molécules dangereuses sur le marché.
Mais n'allez pas trop vite, parce que moi, j'aimerais justement que vous détailliez pour nous toutes ces enceintes dans lesquelles vous avez eu l'occasion d'aller et ce qui s'y est passé. Justement, moi, j'avais l'intention de vous interroger, ça m'intéresse beaucoup, sur le Grenelle de l'environnement. Mais revenons donc à ces différentes étapes que vous étiez en train d'énumérer. Il s'est passé des choses, certaines substances ont disparu. On sait, on peut le dire déjà, que l'Europe a péniblement accouché d'une réglementation, la réglementation REACH, sur le contrôle des molécules chimiques qui sont mises sur le marché. On sait qu'il y a des agences qui existent, qui sont censées vérifier que les molécules en question sont d'une parfaite innocuité. Donc tout de même, il y a eu effectivement, comme vous le disiez, une prise en compte.
Alors, il y a une prise en compte. Sur les pesticides, on est sur une législation particulière au niveau européen. On n'est pas dans le cadre de la législation REACH. Il y a une législation particulière, un règlement spécifique C'est bien logique, hein, puisque les pesticides sont des produits qui sont conçus pour être dangereux, c'est-à-dire toxiques pour soit les insectes, des animaux ou des plantes, et qui sont délibérément déversés dans l'environnement. Ça explique que dès le début des années 90, il y a une directive spécifique qui a été mise en œuvre. Cette directive a été remplacée récemment par un règlement qui est plus ambitieux que REACH sur certains points, notamment sur la question des perturbateurs endocriniens. Ce nouveau règlement prévoit qu'on ne tolère plus sur le marché, à partir de maintenant, des pesticides qui soient reconnus comme étant des perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est un vrai progrès. Ça a été obtenu grâce au travail des différentes ONG, grâce à une eurodéputée verte allemande qui s'appelle Hiltrud Breyer. Ça a été gagné en 2009, l'application 2011. Mais dans ce coup d'œil dans le rétroviseur que vous me proposez de faire, on voit les progrès, mais on voit aussi la difficulté et la lenteur des progrès, y compris quand on fait adopter un règlement, quand on arrive à avoir un règlement intéressant à adopter, on s'aperçoit qu'on n'a pas gagné pour autant. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas atteint par le blues, je crois au côté dynamique des choses et qu'une espèce de lutte assez continuelle.
Quand je vous ai appelé, vous m'avez même dit je préférais la colère de l'expert plus que le blues de l'expert.
Oui, le blues, bon, on a tous des moments, tous des êtres humains, tous des moments où on en a un peu marre, on se dit, ouais, alors bon, hein. Mais on n'a pas le droit d'être découragé, dans le sens où effectivement, il y a des progrès qui sont faits, dans le sens où c'est une question de santé publique, donc il y a quand même un devoir d'intérêt général qui nous aide tous à faire ce travail et à avancer avec enthousiasme. Mais on sait aussi qu'il n'y a rien de définitivement gagné. Ce règlement de 2009 sur les pesticides prévoit qu'on doive retirer du marché les pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, ce règlement n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué, donc la victoire politique, si vous voulez, ne s'est pas transcrite en victoire dans les faits. Et c'est...
Qu'est-ce qui s'est passé ?
On pourrait juger que c'est décourageant, mais c'est extrêmement intéressant aussi pour comprendre comment les choses fonctionnent et finalement où est le pouvoir réel. À partir du moment où, dans le parc aux décisions, le Parlement européen, la Commission, etc., se mettent d'accord sur un règlement, on pouvait penser que déjà en fin 2013, la Commission remplit son devoir, c'est-à-dire définir les critères qui vont permettre de dire ce qu'est un perturbateur endocrinien. Effectivement, si on veut exclure des pesticides perturbateurs endocriniens, il faut savoir de quoi on parle. Derrière, il y a des critères scientifiques. La Commission européenne était donc tenue par le règlement de 2009 de définir ces critères pour le 14 décembre 2013. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait parce que, bon, ça rentrait dans les détails extrêmement précis, les lobbies de la chimie ont organisé une controverse scientifique de toutes pièces. Et dans les mois précédents, cette échéance, on réussit avec des articles co-signés par des dizaines de scientifiques, bon, au lien d'intérêt évident d'ailleurs après coup avec l'industrie, d'introduire le doute dans le processus communautaire. La fabrique du doute, c'est donc une stratégie que les lobbies du tabac, les lobbies de l'industrie emploient très souvent. Donc ils ont réussi leur coup, ils ont réussi à faire en sorte que la définition de ces critères de ce que sont les perturbateurs endocriniens n'ait pas été prise. Ils ont réussi à imposer finalement dans le processus communautaire une évaluation socio-économique qui doit être réalisée avant qu'on mette en œuvre la directive. Donc vous voyez, quand on commence à mettre des matelas de sécurité comme ça qui n'étaient pas prévus du tout dans le règlement, évaluation socio-économique, on sait bien ce que ça veut dire, nous, hein, on a entendu parler de ça au moment du Grenelle 2. Là. Quand on veut faire de l'évaluation socio-économique, ça veut dire, oh là là, on va regarder finalement comment vont être les impacts sociétaux et économiques de tout ça. Ça veut dire qu'on remet les priorités sanitaires, environnementales du rang 1 au rang 2 ou au rang 3. Donc c'est jamais un bon signe. Et puis, ça permet aussi au lobby de continuer à s'activer. Et en ce moment, après en avoir discuté d'ailleurs avec des responsables de la direction santé-consommation à la Commission européenne, il continue à faire pression sur la Commission. En fait, il les menace de procédures juridiques longues, coûteuses et asphyxiantes. Et donc aujourd'hui, on est avec une Commission européenne qui est prête à transiger avec l'industrie pour finalement modifier les règles qui ont été votées dans le cadre du règlement sur les pesticides. Les modifier d'une manière absolument scandaleuse selon nous, puisque ce règlement dit, une fois qu'on a les critères, soit votre produit est perturbateur endocrinien ou pas, si il est perturbateur endocrinien, on l'exclut. Sans évaluation du risque. On ne cherche pas à savoir s'il y a un risque pour la personne à obéir. Eh bien aujourd'hui, cette disposition-là est menacée, et dans la lecture que la Commission européenne fait de ce règlement de 2009, elle dit non, mais dans certains cas, on peut faire de l'évaluation du risque. Et elle vient de faire une feuille de route avec différentes options, différents scénarios dans lesquels deux scénarios sur trois prévoient qu'on réévalue le risque. Et ça, c'est un peu technique pour personnes qui ne travaillent pas tous les jours là-dedans, mais on avait réussi à voir sur cette famille de substances que sont les perturbateurs endocriniens une réelle avancée, puisque ces molécules agissent à très faible dose. Et on a du mal, en appliquant des règles un peu d'évaluation du risque classique, à dire, ben voilà, en dessous de telle dose, il n'y aura pas d'effet, puisque ce n'est pas forcément la dose qui va faire le risque, le poison, mais c'est la période d'exposition, une dose.
Oui,
qui...
c'est même l'inverse. Oui, on sait que parfois, des faibles doses sont plus nocives que des doses massives.
Voilà, on est dans une toxicologie qui ne répond pas aux règles de la toxicologie classique. La dose, c'est le poison, c'est Paracels. En dessous d'un certain seuil, il ne se passe rien. Non, là, on est avec des molécules qui, sur vous, moi, par exemple, ne produiront aucun effet, mais sur un fœtus de 3 mois, vont avoir des conséquences catastrophiques à la même dose d'exposition. Donc là, ces règles, toxicologie étant totalement différentes de toxicologie classique, le législateur, dans sa grande sagesse, avait prévu que, justement, on ne fixe pas de dose limite. On considère qu'à partir du moment où le produit est à risque pour cet effet perturbateur endocrinien, ben, on l'exclut tout bonnement et simplement de la liste des produits pesticides autorisés. Eh bien, aujourd'hui, sous pression de l'industrie, sous des menaces de procès, sous une lecture complètement délirante du texte du règlement, la Commission envisage finalement de réintroduire de l'évaluation du risque. Réintroduire l'évaluation du risque, c'est ouvrir la porte à finalement la prise en compte de ces produits-là comme des produits agissant par les voies classiques de la toxicologie, c'est-à-dire reculer sur ce progrès pourtant démocratiquement acquis par nos parlementaires européens en l'année 2009. Donc voilà une illustration de ce qu'est une lutte qui est gagnée un jour, mais qui n'est jamais définitivement gagnée si vous n'allez pas continuer à travailler en tant qu'ONG pour surveiller sa mise en œuvre. Et aujourd'hui, notre travail, c'est de faire en sorte de montrer ces dérives de la Commission et d'essayer de dénoncer ça pour que la Commission, finalement, n'ose pas céder aux pressions des lobbies industriels.
C'est un exemple très intéressant, François Vayret, et j'aimerais bien, si vous le voulez bien, ou si vous le pouvez, qu'on reste un moment dessus. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui notre travail c'est d'arriver à mieux comprendre les rouages des décisions politiques, administratives, le travail des lobbies en fait. Donc est-ce que déjà vous avez des éléments d'analyse qui vous permettent de comprendre qu'est-ce qui a fait basculer la Commission ? Est-ce que c'est véritablement la crainte de procès ? Est-ce que c'est l'incertitude entretenu sur les arguments des uns et des autres, qu'est-ce qui fait que, alors que la bonne décision avait été prise, celle qui concernait la santé publique, tout de même celle qui protégeait la population de l'Europe tout entière, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce recul qui n'est pas vécu comme un recul par ceux-là même qui le font ?
Alors c'est la question. Alors c'est toujours difficile de faire une peinture dans le détail. C'est pas le mardi 3 septembre à 15h37 que ça s'est passé. Mais ce qu'on sait comprendre et expliquer, c'est les grandes lignes de l'action des groupes de pression qui ont fait reculer la Commission. C'est toujours un peu la même chose.
Vous les connaissez, ces groupes de pression, parce qu'on parle des lobbies, et à chaque fois qu'on parle des lobbies, d'une certaine façon, c'est une image vide qu'on a dans la tête. On ne voit pas de qui il s'agit.
Oui, alors c'est pas un fantasme, parce que ce sont des êtres humains réels derrière, et c'est pas seulement des costumes vides. Moi, je vois la tête des gens qui sont dedans. Le principal lobby des pesticides au niveau de l'Européen, c'est le CPA, c'est l'European Crop Protection Association, dont le directeur est M. Bocquet, qui est l'ancien directeur de l'Union d'industrie de protection des plantes en France. C'était le lobby des pesticides en France. Il a été récompensé pour ses grandes qualités, son travail acharné, par une promotion au niveau européen. Donc je sais parfaitement comment il travaille. Et c'est toujours un peu les mêmes axes. On va crier à la famine, premièrement, ou quasiment à la famine, en disant « mais vous n'y pensez pas, si vous appliquez les critères qui sont actuellement proposés, vous allez perdre 40%, 50% de la production de céréales en France parce que vous allez supprimer telle ou telle famille de fongicides. Vous n'y pensez pas. Voilà. » Donc, il y a toujours aussi l'argument du chômage dans l'industrie chimique. Alors que bon, si on remplace les pesticides par d'autres pesticides, l'industrie chimique travaille toujours. Si on fait de l'agronomie à la place de l'utilisation des pesticides, au lieu d'utiliser des herbicides, il y a l'activité économique. On va utiliser des RC-tris, on va utiliser de la main-d'œuvre, donc il y a de l'activité derrière. Mais malgré tout, ce sont des arguments qui produisent des effets sur les responsables politiques, enfin au moins une partie d'entre eux, au niveau national et au niveau communautaire. Si à ça vous ajoutez la menace à peine voilée de procès divers et variés, les services de la Commission, on a tendance à voir, imaginez une Commission européenne avec des bataillons pléthoriques de fonctionnaires, etc., les mains dans les poches et inoccupés, c'est pas du tout ça. Il faut dire qu'il y a plutôt une diminution du nombre de postes dans les différentes directions, et que il y a un travail énorme à effectuer, et que la perspective d'avoir à traîner un procès, intenter une direction à la Commission européenne par l'industrie chimique européenne dans son ensemble avec ses diverses branches, c'est une perspective d'asphyxie ou quasi-asphyxie pour toute une partie des services. Donc, je me permets de le dire parce que c'est ce que les responsables de la DG Sanco m'ont dit. Et donc, on négocie avec les industriels, parce que vous, Sevaillerette, vous avez une lecture de ce qu'est le règlement et les annexes. Vous dites, oui, effectivement, il faut exclure les pesticides perturbateurs endocriniens. Il y a une seule exemption, c'est l'exposition négligeable. Et c'est défini, c'est l'exposition négligeable, c'est sous une serre, en fait, c'est quand il n'y a pas de contact avec l'homme. Et bien, l'industrie a une autre lecture, et donc l'exposition négligeable, pour elle, ça veut dire qu'il faut quantifier l'exposition. C'est une manière de refaire de l'évaluation du risque. Et là, on voit bien qu'on est à la limite. Ça prédéfinit, ça prédestine ce qui pourrait être un combat juridique avec les arguments des uns et des autres. Et ça, la Commission ne veut pas aller là-dedans parce qu'elle ne veut pas être paralysée.
Moyennant quoi elle l'est ?
La Commission, elle n'est pas neutre politiquement non plus. Ce n'est pas une commission de militants, ni écolos, ni sociaux extrêmement féroces. Donc elle est aussi sensible à un certain nombre d'arguments, d'un certain nombre d'acteurs industriels, plus qu'à des arguments d'ONG. Après ça, effectivement, il y a aussi la faiblesse parfois des ONG. Pas une faiblesse dont on peut faire reproche, mais une faiblesse parce que vous imaginez que les capacités financières, humaines, etc., des ONG ne sont pas exactement aussi importantes que les capacités financières des lobbies industriels. Donc les ONG, même les plus importantes, etc., se bagarrent toujours pour trouver les moyens pour envoyer la personne formée, suivre ses dossiers, qui demandent quand même beaucoup d'expertise, là où l'industrie a des dizaines de lobbyistes demeurent à Bruxelles, qui suivent les dossiers au jour au jour, qui sont dans les couloirs toujours et qui vont assurer une présence, assurer un bruit de fond, raconter une histoire qui sera toujours la même à ces décideurs et qui, au bout d'un moment, ont tendance à écouter plus une musique qu'une autre.
François Vaillerette, les hasards de la conversation nous ont entraînés en Europe, et de fait, vous agissez également au niveau de l'Europe, plutôt peut-être à travers le Pesticide Action Network, le PAN, dont vous êtes un des administrateurs, et qui est un réseau d'ONG européennes qui tente en effet d'intervenir auprès des instances européennes pour contrebalancer ou apporter d'autres informations que celles des lobbies puissants européens, dont on disait tout à l'heure qu'on a du mal à se les figurer. Peut-être que ça sera plus facile de comprendre ce qui se passe, ou peut-être aussi plus facile d'agir si on revient en France, et donc si on revient à ce fameux Grenelle de l'environnement. Vous faisiez partie des ONG qui sont allées, ils partirent 20 000, vous étiez à peu près 200 en arrivant au port, et en piètre état peut-être, vous allez nous le raconter, en tout cas vous y avez cru. Vous avez cru à cette possibilité d'une enceinte dans laquelle il allait être possible de parler de ce problème des pesticides et de trouver ensemble des solutions à l'échelle nationale.
Je ne sais pas ce à quoi j'ai cru exactement. Moi, je crois à une chose, c'est que quand il y a un espace pour aller essayer de faire avancer les choses, il faut y aller. Et après, à la fin, on regarde ce qu'on a pu faire passer. Et voilà. Donc, pas d'espoir excessif. Il y a quand même eu un certain nombre de progrès accomplis dans certains domaines, dans le Grenelle de l'environnement. Alors certes pas dans le domaine nucléaire qui nous a été interdit d'aborder, mais on a quand même parlé des pesticides, on a quand même parlé des dangers des pesticides, et il y a des paroles qui ont été prononcées, même par le président de la République à l'époque, alors on peut toujours avoir son opinion sur la valeur de ces propos-là, mais qui ne sont quand même pas des propos qui sont neutres, hein, quand on dit voilà, les pesticides sont des produits dangereux, etc., etc. Bon, c'est quand même mieux d'avoir ce discours-là, au plus haut niveau de l'État, qu'un discours plus lénifiant. Donc ça supporte nos actions et nos demandes. Et puis, il y a quand même dans le Grenelle de l'environnement, il y a eu une avancée sur des objectifs qui ont été définis, avec quand même un objectif de réduction de moitié de l'usage des pesticides en 10 ans, avec un bon indicateur, c'est un indicateur sur le nombre de traitements, pas sur le tonnage, qui évite d'avoir un biais lié à l'évolution des produits. Avec un ministre à l'époque, Michel Barnier, qui est quelqu'un qui, je dois dire, a fait le boulot, a résisté aux assauts de l'industrie qui ont tout fait jusqu'à la dernière minute pour essayer de miner le dispositif, avoir les indicateurs les plus mauvais. Michel Barnier a tenu le coup, il a été très correct, je le dis. Mais après, une fois que ce plan Ecophyto a été adopté, tout commence.
Alors rappelons, il s'agissait... non, mais il faut aussi rappeler quels étaient les objectifs du plan Ecophyto.
Alors dans les grandes lignes, les objectifs, c'était supprimer les substances les plus dangereuses, 53 substances les plus dangereuses. Ça, ce n'était pas difficile parce qu'au niveau européen, il y avait à peu près ce nombre-là de substances dans les tuyaux qui devaient sortir parce que c'était plus...
Trop flagrant,
les industriels ne les défendaient plus. Enfin, bon, donc ça a été un bon coup de com', c'était facile de les retirer. Bon, tant mieux. Bon. Et après, le cœur du travail, c'était la diminution de 50% de l'usage des pesticides, parce que si vous arrivez à faire ça, vous changez le système agricole. Si vous diminuez de 20%, bon, là, vous pouvez adapter à la marge. Si vous diminuez de 50%, vous êtes obligé de changer les rotations, vous êtes obligé de tout changer et vous changez l'agronomie.
L'horizon, c'était 2018.
Oui, alors 2018, bien sûr, ça risque d'être compliqué, puisque aujourd'hui, en fait, on n'a pas diminué. Il y a eu l'année dernière une polémique avec Stéphane Le Foll, où il a annoncé une baisse d'utilisation de 5,3% de mémoire. Et on a contredit publiquement, en disant non, c'est faux, vous avez fait des calculs avec des chiffres qui sont incomplets. En gros, il n'y avait pas eu 100% des remontées dans les statistiques, donc avec 95% des remontées, on trouvait une baisse de 5%, c'est normal. Bon, on avait des sources bien placées qui nous permettaient de savoir que ce qu'on disait était vrai. Non, si on est sérieux, on voit que les choses n'ont pas diminué et qu'on a une vraie difficulté. Alors, en utilisation non agricole, c'est-à-dire dans les communes, chez les jardiniers, les choses bougent. Vraiment, on voit de plus en plus de communes qui vont vers la diminution des pesticides, le zéro phyto. Il y a cette loi apportée par Joël Labbé qui était adoptée, qui prévoit pour 2020-2022 l'arrêt chez les communes et pour les jardiniers amateurs, la ministre de l'Environnement veut avancer ces délais encore vers 2016. Donc tout ça, ça va. Mais le problème, c'est l'agriculture. L'agriculture, forcément, c'est le cœur du problème, puisqu'on a un système agricole qui est toujours axé sur la production industrielle d'aliments avec une vocation exportatrice, etc. Et on a du mal à embrayer sur le changement agronomique. Alors on a un ministre de l'Agriculture qui parle d'agroécologie. Alors, il a introduit ce concept. Bon, pas trop ce qu'il y a derrière. L'agroécologie, c'est un peu un fourre-tout. Quand on lui demande, mais c'est quoi l'agroécologie pour vous, on ne sait pas trop. Nous, on ne peut pas se contenter de se limiter à des avancées conceptuelles. Et maintenant, on est dans le dur de la bataille, avec justement une révision des co-phyto qui est en cours d'instruction, là, avec le député Luc Potier, qui est responsable de ça. Alors, on va voir ce que ça va être, cette révision. Nous, on a contribué avec d'autres, à alimenter le débat. Mais ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ces objectifs soient révisés à la baisse et que le projet soit dénaturé. Ça, ce sera un signe extrêmement mauvais. Et on craint un petit peu ça, puisqu'on a eu le Premier ministre il y a quelques jours qui disait « Non, mais pour la directive nitrate, je digresse légèrement, mais bon, je vais demander une révision de la directive nitrate. » Il a dit ça devant une assemblée d'agriculteurs qui l'ont applaudi chaleureusement dans le Bordelais. Nous, on ne pense pas que ce soit en révisant les normes ou en cassant le thermomètre qu'on résolve le problème. Les problèmes sont toujours là. La France est toujours condamnée. Et c'est pas parce que la directive est mauvaise qu'elle est condamnée. C'est parce que notre politique est mauvaise. Et donc maintenant, il va être quand même temps de poser des actes forts en mettant en place des objectifs qui soient quand même un minimum contraignants. Tant qu'on en appelle au volontariat, on s'aperçoit qu'il ne se passe pas grand-chose dans la réalité et qu'on n'atteint pas les objectifs.
Oui, mais de fait, François Vayrette, vous le soulignez vous-même, quand il s'agit de jardiniers amateurs, quand il s'agit même de communes, il n'y a pas de transformation, de bouleversement de fond en comble de leur mode de vie, de leur pratique, simplement parce qu'ils décident de se passer de pesticides dans le jardin ou sur les espaces collectifs ou le long des trottoirs. Après tout le monde peut s'habituer à voir des herbes pousser le long des chemins sans que ça soit une remise en cause totale du mode de vie. Quand on arrive à l'agriculture, en effet, baisser de 50% l'emploi des pesticides, c'est passer à un autre type d'agriculture. Donc est-ce que ce n'est pas là la limite de ce que vous, en tant qu'association, ou que vous, en tant qu'expert, pouvez apporter comme exigence, comme information ?
Alors, premièrement, il ne faut pas sous-estimer non plus les freins et les réticences dans le domaine non agricole. Effectivement, quand il faut... dans un service d'entretien des espaces verts dans une commune, passer du pulvérisateur à un entretien manuel, une gestion différenciée, plus technique, etc., ça peut aussi engendrer des réticences. Mais c'est vrai que dans le milieu agricole... Par rapport aux habitudes professionnelles. Bon, après, il y a suffisamment de recul, de technique, de professionnels maintenant pour aider les professionnels à changer le logiciel, qui est celui qui est leur... Bon, maintenant, en agriculture, le problème, c'est qu'effectivement, quand on regarde les différentes études publiées par l'INRA dans le cadre, justement, des co-phyto, on s'aperçoit qu'on peut faire du moins 50% de pesticides en production agricole, céréalière, etc., qu'on va avoir une baisse de production. Une baisse de production de l'ordre de, on va dire, 10%, quelque chose comme ça, bon, en moyenne, en gros. c'est pas dramatique, parce que perdre 10% de production, ça ne veut pas dire qu'on va perdre 10% de revenus. Et c'est là où il y a des groupes de professionnels maintenant un peu partout, y compris dans des régions d'agriculture intensive comme la mienne, en Picardie, ou dans l'Eure, et bien ailleurs en France, où ces groupes d'agriculteurs qui sont déjà passés à ce type d'agriculture, oui, ils produisent un peu moins, mais ils gagnent autant, voire même plus, que leurs collègues qui sont en agriculture chimique. Le problème, c'est pour l'ensemble du système d'accepter ça. Et quand on a à la tête de la FNSEA Xavier Belin, tout puissant, qui se permet même d'ailleurs de parler après le président de la République au salon de l'agriculture, c'est quand même un signe du manque de respect qu'il porte, et en tout cas de la puissance qui suppose être la sienne, eh bien on mesure toute la difficulté à trouver un nouveau contrat social avec son agriculture, pour une autre agriculture. On peut faire une agriculture que c'est une agriculture moderne, avec un haut niveau de technicité, qui nourrissent les gens, mais qui exportent un peu moins, mais qui en même temps préservent plus les paysages, les milieux, la santé des professionnels, la santé des consommateurs, la santé des riverains. Ça, ce serait un beau contrat sociétal de l'agriculture avec le pays. Et à côté de ça, la profession, je dirais, dans ses instances dirigeantes, s'y refuse, continue à se plaindre finalement d'être mal aimée de la population, mais sans envisager que... Je dirais, l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc l'amour, il devrait se négocier dans un contrat social. Et c'est ça le changement. Alors bien sûr, on sait que le changement, tout changement engendre une réticence, un frein. Et que ça, c'est normal, c'est logique. Mais à un moment donné, quand la parole publique dit, il faut changer la place des pesticides dans notre agriculture, c'est ça le sens du plan Ecophyto. Ça devrait produire des résultats, mais la faiblesse, c'est que ce plan n'est pas juridiquement contraignant. On a déjà d'autres exemples, sur les perturbateurs endocriniens récemment, la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. On a fini par avoir des objectifs qui sont suffisamment bons, mais ce n'est pas contraignant. Ce sera de toute façon ce qui se passera au niveau européen qui s'imposera en France. Donc il faut travailler aux deux niveaux, évidemment, mais il faut que les pouvoirs publics assurent la cohérence entre leur position à Paris et leur position à Bruxelles. Et quand on dit, il faut interdire les perturbateurs endocriniens, pesticides, sur leurs critères propres de danger, il faut aller à Bruxelles taper du poing sur la table pour le faire. Et c'est ça, le rôle des ONG, c'est d'aller mettre justement les pouvoirs publics devant leurs éventuelles tentatives de fuite de leurs responsabilités, devant leurs contradictions, pour exiger qu'ils soient actifs, qu'ils prennent des risques là où les décisions se prennent vraiment.
En vous écoutant, François Vayret, je me demande si, finalement, le problème principal, est-ce que c'est l'immobilisme, une façon de refuser de bouger, ou est-ce que c'est quelque chose de plus grave, me semble-t-il, le détricotage de tout ce qui est engagé ?
J'ai tendance à répondre les deux. Effectivement, il y a des domaines dans lesquels on demande des progrès législatifs qu'il faut obtenir, donc il faut sortir de l'immobilisme, mais après... Il faut être sûr que ce qu'on a gagné soit mis en œuvre. C'est-à-dire que les lobbies qu'on a fait sortir par la porte ne rentrent pas par la fenêtre. On en a, nous ces jours-ci, une illustration forte. On va publier très bientôt un rapport avec Pesticide Action Network Europe et Génération Future qui montre que, finalement, on n'utilise pas la littérature scientifique publiée dans la réévaluation des pesticides qui reviennent sur le marché. C'est une nouvelle disposition dans le nouveau règlement. La firme qui... propose un dossier pour la réhomologation d'un produit. Il y a le glyphosate, d'ailleurs, dans le lot, la fameuse matière active du Roundup.
Le fameux Roundup.
Voilà. Doit fournir l'ensemble de la littérature publiée sur le sujet depuis dans les 10 dernières années. Donc ça fait parfois un gros paquet d'études sur des molécules comme le glyphosate. Bien, on s'est aperçu que finalement, en général, les dossiers contenaient en moyenne un quart de ce que nous, on a trouvé comme littérature publiée sur la toxicité de la molécule X ou Y.
Alors qu'ils sont tenus à une certaine exhaustivité ?
Ils sont tenus à publier les publications, c'est-à-dire l'ensemble. Et donc, elles sont très peu citées. Et pour certaines molécules, il y en a une, parfois zéro. Donc, première lacune. Donc, c'est les firmes qui ont une lacune. Deuxième lacune, au niveau des États membres, chaque dossier doit être suivi par un État membre rapporteur. La France a certains dossiers, d'autres pays d'autres dossiers. Et donc, cet État membre doit vérifier le dossier fourni par la firme, l'entreprise phytosanitaire. Parfois, on voit très bien qu'il n'y a pas de contrôle. Il y a juste un OK qui est apposé. On est d'accord. Et donc là, l'État membre est responsable. Parce que s'il ne signale pas le manque concernant ces dossiers, le fait que les études publiées par les équipes universitaires indépendantes des firmes ne sont pas là, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait non plus leur travail. Ils n'ont pas travaillé dans le sens des obligations du règlement. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas le règlement. C'est illégal. Et après, ces dossiers sortent et ont un avis favorable et on réautorise les molécules. Alors qu'on n'a pas été vérifié si les études étaient là. Et quand elles sont citées dans les rapports, on n'en tient pas compte. on a pu démonter exactement le processus. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, la plupart du temps, donc l'EFSA, qui est l'autorité de sécurité sanitaire européenne, exige que les études soient conduites selon ce qu'on appelle les bonnes pratiques de laboratoire, les BPL, qui sont des systèmes de contraintes, d'exigences qualité, entre guillemets, que les équipes universitaires ne suivent jamais, en général. Je vous explique pourquoi. Ces critères ont été définis par des auteurs dans une publication dans les années 90, je crois, ou avant même. L'auteur principal, c'est un monsieur qui s'appelle Klimisch, et il était toxicologue pour BASF. Il a défini les critères de ce qu'était une étude bonne pratique de laboratoire, parce que c'était une période où il y a eu des scandales dans les études publiées qui avaient été un peu bidonnées. Et donc ces critères définis par l'industrie sont les critères qui aujourd'hui servent d'outil de sélection des études recevables qui seront prises en compte et des autres, toutes les autres qui ne seront pas prises en compte. Ce qui fait que vous pouvez avoir des centaines, des milliers d'études sur la table publiées par des équipes universitaires les plus sérieuses du monde. Elles sont écartées uniquement sur ce critère-là. Et c'est aberrant, c'est surtout non scientifique, parce que qui est, par exemple, sur 1000 études, publiées en 10 ans sur une substance, des études de qualité inégale, on en a bien conscience. Qu'on nous dise, on les a reviewées, effectivement, sur les 1000, il y en a 900 qui sont vraiment pas bonnes, il y en a 50 qui sont bonnes et 50 très bonnes, sur des critères objectifs, scientifiques. Ben, on dirait, OK, il n'y a pas de problème. Et allons regarder les 50 qui sont très bonnes et les 50 qui sont bonnes. Mais non, ce n'est pas ça qui est fait. C'est, a priori, vous n'êtes pas bonne pratique de laboratoire, on n'élit pas l'étude et on ne la prend pas en compte. Ce qui fait que, sur les 7 molécules dont on a suivi la réhomologation, jamais il y a une étude scientifique publiée par une équipe universitaire, donc autre que des études publiées par les firmes elles-mêmes, qui a été prise en compte pour modifier une valeur guide, une dose journalière admissible en gros, ou une valeur sans effet, qui sont des valeurs qui vont permettre de fixer des règles par rapport à l'utilisation et même à l'autorisation de la molécule. Pas une fois. C'est-à-dire que ces tonnes de papiers qui ont été publiés par les meilleures équipes universitaires du monde n'ont jamais modifié en quoi que ce soit l'autorisation de mise sur le marché de ces molécules-là. Autrement dit, elles ne servent à rien, ce qui veut dire que cette disposition, l'article 8, alinéa 5 du règlement 107-2009, ne produit zéro résultat dans l'homologation des pesticides. C'est un pur scandale, un déni de droit pour nous. D'ailleurs, on se réservera pour la suite des actions juridiques éventuelles, avec des difficultés, puisqu'il faut agir très rapidement, et donc il faut analyser les dossiers très rapidement. Mais ça veut bien dire une chose, c'est qu'on peut obtenir un gain législatif très important. Si derrière, il n'y a pas un suivi fort des associations par leur travail qui permettent de pointer ça, bah, les lobbies derrière regagnent tout. Et puis, je dirais, les États membres aussi, un certain nombre d'entre eux, soit par incompétence. Par exemple, dans un de ces dossiers-là, l'Espagne disait non, mais ce n'est pas nécessaire de faire l'étude bibliographique des études scientifiques. Ils ne connaissaient même pas l'article 8, alinéa 5, et l'obligation qui en découlait. Soit parce que c'est fait par-dessus la jambe, ou parce que peut-être qu'à un moment donné, certains organismes d'évaluation ont intégré ces critères de sélection des études qui ne sont pas exigés dans le règlement. Le règlement ne dit pas « vous retiendrez les études de bonne pratique de laboratoire selon les normes de CDE, blablabla ». Non, c'est les études publiées. C'était un truc pour lequel on s'est battu, qu'on a obtenu, et on savait que c'était important. Mais aujourd'hui, c'est juste pas appliqué.
Est-ce que vous avez inscrit au-dessus de votre bureau, François Vayrette, que le diable est dans les détails ?
Alors ouais, le diable est dans les détails, mais pour moi maintenant, c'est plus des détails, ça. Moi, je passe avec mes collègues beaucoup de temps à regarder ça, parce que les industriels sont des gens extrêmement pragmatiques. Quand on va dans des réunions, en général, ils parlent peu, mais quand ils parlent, il faut vraiment toujours écouter ce qu'ils disent, parce que ça vous montre où sont les domaines d'action importants. Et s'ils trouvent un moyen de ne pas faire appliquer une disposition qui les dérange, ils iront toujours essayer de le faire. Et après, je dirais, c'est leur jeu, c'est leur intérêt. Mais derrière, il faut que la puissance publique se fasse respecter, fasse appliquer le droit. À partir du moment où on a une commission qui n'applique pas le droit, où on a parfois des États qui sont défaillants aussi dans leur mission de contrôle, là, il y a un vrai problème. Et ces organismes-là, ces États-là, doivent rendre compte de ces défaillances-là. Mais on arrivera à faire bouger ça que s'il y a un contrôle. Donc il y a vraiment une nécessité d'avoir un contrôle citoyen. Et c'est vrai que le niveau d'expertise, là, il n'est pas scientifique. Disons que Il y a des scientifiques qui nous aident, il y a des juristes qui nous aident à lire des trucs. Et après ça, il faut être effectivement vigilant, croiser des compétences, travailler en réseau pour pouvoir toujours voir où sont les biais. Et c'est ça, ces détails qui constituent le diable. C'est les biais. Mais au bout d'un moment, et avec les années, là, je peux avoir quelques inconvénients. Ça a aussi quelques avantages, c'est qu'on gagne un peu en expérience. Et c'est toujours un peu les mêmes schémas. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'action des lobbies, bon, on ne va pas vous dire monsieur un tel jour à telle heure, mais c'est toujours un peu la même histoire. C'est toujours un peu les mêmes ficelles. Donc, ça fait gagner du temps, parce qu'on va tout de suite vérifier les trucs où il faut les vérifier, plutôt que lire ligne par ligne, mot après mot, tout ce qu'il y a dans ces montagnes de papier.
Les États défaillants auxquels vous faisiez allusion il y a un instant, François Weyrieth, ça peut être la France. Il y a eu un rapport de l'ANSES, il n'y a pas très longtemps, qui pointait les défaillances de la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation, qui ne tient pas compte de ses avis défavorables sur la mise sur le marché de pesticides en France.
J'ai mis la main sur un rapport signé par le directeur de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation en France, qui effectivement pointait le fait que la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation, c'est le ministère de l'Agriculture, ne tenait pas compte, assez vite, disons, de ces remarques sur un certain nombre de produits pesticides. Et donc,
avant de les mettre sur le marché.
Avant de les mettre sur le marché. Et donc, ça a fait l'objet d'ailleurs d'une publication de notre part et d'une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui qu'on a déposée, donc qui est toujours sur le bureau du procureur. On attend des nouvelles. Mais ça a conduit d'ailleurs le ministre de l'Agriculture à modifier les procédures de mise sur le marché pour les pesticides en les retirant de la DGL pour les transférer à l'ANSES. Alors ça fait couler pas mal d'encre, mais nous, on a tellement de mauvais souvenirs de comment la DGL a pu, notamment par le passé, les affaires du Gauchot, du Régent, gérer très mal les dossiers d'homologation de pesticides, qu'on est plutôt satisfait que ça soit transféré à une agence qui est quand même un peu plus transparente. Mais même l'ANSES peut être critiquable. J'étais hier à une réunion à l'ANSES sur les perturbateurs endocriniens. J'ai pu, dans le cadre un peu de travaux qu'on fait sur le dossier que je vous citais il y a quelques instants, c'est-à-dire ces produits pesticides qui vont être réhomologués pour lesquels on n'a pas pris en compte les études scientifiques, je leur ai demandé pourquoi sur le dossier de l'amitrole, bon, passons sur cette substance, suspectée d'être perturbateur endocrinien, cancérigène, pourquoi est-ce que le dossier ne retient qu'une étude, visiblement une étude plus ou moins liée à l'industrie, bonne pratique de laboratoire, et zéro des 27 études que nous on a pu trouver en cherchant sur les bases de données type PubMed, etc. Et pourquoi ça n'apportait pas de questions de la part de l'ANSES qui était... Enfin, j'imagine que c'est l'ANSES qui devait gérer ça dans le cadre de la fonction d'État membre que la France, rapporteur que la France avait sur ce dossier de l'amitrole. Ça veut bien dire qu'il y a quand même une faiblesse, alors sans doute une faiblesse ou une lenteur à prendre en compte cette obligation nouvelle qui découle du règlement de 2009, applicable depuis 2011, mais il va quand même falloir s'y mettre parce que c'est une avancée. Il faut comprendre que c'est pas là nous pour embêter les évaluateurs qui sont souvent des gens formidables, qui font le mieux qu'ils peuvent, mais c'est une question de santé publique. Si on demande de prendre en compte l'ensemble de la littérature scientifique publiée, c'est que ça permet d'aller avoir des éclairages scientifiques que les études des firmes, les études qui sont souvent des études qui font des études de toxicité à haute dose, à forte dose, etc., n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas été testés des études à faible dose, avec des moments d'exposition particuliers, des organismes particuliers, et qu'on a tout intérêt pour protéger la santé publique d'avoir le maximum de connaissances pour pouvoir... vérifier qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Ça nous semble être justement un raisonnement scientifique de dire ça. Ouvrir au maximum les champs de la connaissance. Pourquoi se priver des travaux des universitaires tout en se gardant le droit d'en écarter certains si on juge que vraiment c'est des travaux trop faibles. Mais on ne peut pas les écarter sans raison, qu'ils soient des raisons uniquement dogmatiques, comme celle de dire ils ne suivent pas les bonnes pratiques de laboratoire, on les dégage. On connaît ça dans d'autres dossiers, comme celui du bisphénol, où il y avait 3 études gardées par l'EFSA contre des milliers d'études en face qui disaient « mais non, attendez, ce produit est dangereux ». Et on avait sous-estimé par un facteur de peut-être plusieurs milliers la dangerosité du bisphénol A. C'est la même chose avec certains pesticides, et c'est ce qu'on montre dans ce rapport. Donc oui, il y a l'Union européenne, il y a des États aussi qui doivent maintenant embrayer. Mais pour pouvoir embrayer et prendre en compte ce genre d'exigences nouvelles, il faut du personnel. Il faut donner de l'argent à l'ANSES. On donne maintenant la responsabilité de la mise sur le marché des pesticides à l'ANSES, très bien. Mais si on continue, dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, à plafonner le budget de l'ANSES, ils n'y arriveront pas, pas plus que le ministère de l'Agriculture. Alors, effectivement, asphyxier les services, c'est un bon moyen pour que le travail ne soit pas bien fait et pour que les firmes ne soient pas embêtées. Nous, ce n'est pas ce qu'on demande. On soutient l'ANSES pour qu'elle ait plus de moyens. On saura être sans concession sur la qualité du travail. Quand on voit des choses qui ne nous plaisent pas, on leur dit. Mais on est aussi logique avec nous-mêmes en demandant des moyens, parce qu'on sait que c'est souvent là que le bât blesse.
Vous venez d'évoquer le bisphénol A. Ça nous permet de terminer sur une note plutôt optimiste. François Weyrieth, là-dessus, vous n'avez pas le blues quand même. Vous avez gagné.
Oui, enfin, gagné un certain nombre de choses, parce que maintenant, il faut voir... Ce type d'activité, c'est une activité dans laquelle le mot repos n'existe pas. On a gagné, mais derrière, il faut évaluer les substituts, il faut voir, voilà. Donc c'est une dynamique, vous voyez. C'est pour ça que le blues n'existe pas, parce que c'est comme la marche si, ou le vélo, si on s'arrête, on tombe. Et là, c'est dynamique. Nous, on est une dynamique de notre côté. De l'autre côté, les intérêts privés industriels ont une autre dynamique. Donc c'est entre le rapport de force entre ces deux dynamiques qu'un état d'équilibre s'établit. Donc oui, là, il y a des progrès possibles. Il y a eu une avancée forte sur la question des perturbateurs endocriniens liés en bisphénol. Il y a un certain nombre d'usages qui ont été interdits. Donc ça montre qu'il est possible de faire des choses. En France, on était pionniers. Au niveau de l'Europe, ça tarde un petit peu. Mais bon, il faut faire des avancées en système, parce que si on met 2 ans à avancer sur une molécule, étant donné qu'il y a 100 000 molécules chimiques, je vous laisse faire le calcul vous-même, il faudra un certain temps pour arriver à gérer l'ensemble des molécules. Donc si on a une avancée sur une molécule, elle doit avoir finalement un effet système, on fasse après, on met en œuvre une action générale publique sur des familles de systèmes. C'est le dossier des perturbateurs endocriniens qui doit découler de cette action sur le bisphénol A. Et aujourd'hui, la législation sur les pesticides, elle est en avance sur les autres législations sur les perturbateurs endocriniens, en ça qu'elle a décidé d'exclure tout bonnement les pesticides perturbateurs endocriniens, ce que REACH, sur les autres produits chimiques, n'a pas exigé. Donc il ne faut surtout pas laisser affaiblir cette législation sur les pesticides, parce que c'est un peu la mère de toutes les batailles. Cette avancée qui pourrait amener finalement les autres législations à s'harmoniser vers le haut, hein, dans la qualité avec la législation pesticide, pourrait être perdue, et ce serait une harmonisation plutôt vers le bas. Et je dirais avec un risque qui est un risque qui nous vient un peu d'ailleurs en ce moment, c'est que on voit très bien que les négociations autour du traité transatlantique sur le libre-échange, eh bien, il y a des discussions ou des discussions périphériques sur les perturbateurs endocriniens qui sont là, sur les pesticides, sur les limites maximales en résidus dans les aliments. Donc tout ça, ça ne nous colle pas le blues, mais ça nous dit qu'effectivement, il nous faut encore travailler un peu plus, et trouver d'autres compétences, trouver d'autres moyens pour pouvoir aussi aller vérifier que on n'est pas en train, là, d'essayer de détricoter, dans le cadre d'un accord transatlantique sur le libre-échange, des dispositions qui ont été gagnées par ailleurs au sein de l'Europe. Ça rajoute une couche de complexité, mais à la fois, c'est un avantage parce que ça va unir des gens qui sont sur l'environnement et des gens qui sont sur le social. Et ça va créer un autre rapport de force parce que c'est les normes qui sont visées là. Ce n'est pas les droits de douane et les normes, il y a les normes sociales, les normes environnementales, et on peut trouver des terrains de connivence et d'action commune avec les syndicats, par exemple.
Cette émission est maintenant terminée. Vous retrouverez François Veillerette et toutes les indications concernant son association Génération Future sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez aussi notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Mixage, Philippe Bredin. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.